France Musique.
Un nouveau journal avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Conseil de défense, conseil des ministres, suivi de près par un séminaire gouvernemental. L'agenda de l'exécutif est particulièrement chargé aujourd'hui. La crise sanitaire est évidemment prédominante, avec notamment la présentation ce matin d'un projet de loi qui doit prolonger jusqu'à la fin du mois de juin l'état d'urgence pour lutter contre l'épidémie. Réunis autour du chef de l'État, tous les ministres vont ensuite donc travailler sur l'agenda des réformes à venir. Il s'agit, Stéphane Robert, de sortir de la gestion au jour le jour imposée par la pandémie et de remobiliser la majorité dans la perspective de la présidentielle de 2022.
Au cours de ce séminaire, Jean Castex va donc d'abord faire un point sur la crise sanitaire avec les ministres de la Santé et de l'Économie. Et puis il évoquera les grandes réformes à venir, la loi sur le séparatisme islamiste, la loi sur la sécurité globale, celle issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. L'examen de ces réformes est déjà programmé à l'agenda parlementaire. On évoquera la réforme des retraites, mais là, sans fixer d'agenda, cette réforme est nécessaire, mais pas prioritaire, nous dit-on. Il y aura aussi tout un volet consacré à l'égalité des chances. Il a été demandé aux ministres de plancher sur la question et ils devront présenter ce qu'il est envisageable de faire en matière de logement, de formation, d'éducation, de politique de la ville. Là encore, il ne s'agit pas de prendre de décision ni de fixer d'échéance, mais de réfléchir ensemble, explique-t-on à Matignon. Toute la difficulté de l'exercice est qu'il faut préparer la candidature d'Emmanuel Macron à sa réélection et donc esquisser la sortie de crise sanitaire, mais sans trop le dire et sans trop en faire, la priorité restant aux yeux des Français la gestion de l'épidémie de Covid-19. Dont on est loin d'être sorti.
Ces dernières 24 heures, la France a effectivement enregistré 20 000 cas de contamination supplémentaires. Le bilan de l'épidémie s'élève désormais à 68 802 morts. Et dans les EHPAD, pour l'instant, seuls 30 000 résidents ont été vaccinés à ce jour. Hier soir, le président du conseil scientifique qui était à la télévision a refusé de se prononcer sur le bien fondé d'un éventuel reconfinement. Il a tout de même indiqué que des mesures plus strictes seraient probablement nécessaires. On devrait en savoir plus de toute façon demain à l'occasion d'une nouvelle conférence de presse du Premier ministre. Déjà en vigueur dans plusieurs pays, un test PCR négatif sera exigé à la fin de la semaine pour se rendre en Irlande. Tous les passagers qui arrivent de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud, là où des variants du virus ont été détectés, devront en plus rester 14 jours à l'isolement. Confiné depuis plusieurs jours maintenant, l'Irlande est l'un des pays où le taux d'incidence est le plus élevé. L'Irlande, où le Premier ministre doit aujourd'hui présenter des excuses officielles aux victimes des maisons pour mères célibataires après la publication d'un rapport accablant d'une commission d'enquête. Ces lieux qui ont fermé en 1998 étaient tenus par des religieuses qui accueillaient alors des femmes ayant donné naissance à des enfants hors mariage et que les familles voulaient soustraire à la critique populaire. C'est une correspondance à Dublin d'Emeline Vin.
Principale révélation du rapport, les bébés mouraient deux fois plus dans les maisons pour mères célibataires que dans le reste de l'Irlande. En partie à cause de la négligence, de la malnutrition et des mauvaises conditions de vie. Ces nourrissons étaient souvent enterrés dans des boîtes à chaussures sans pierre tombale. Ces maisons ont souvent été le seul refuge de ces femmes quand leurs familles les avaient chassées, souligne le rapport. Des refuges où étaient pratiquées moqueries, travail forcé, voire mutilation durant l'accouchement pour expier le péché. La commission pointe plusieurs responsables, l'Église et l'État pour leur édiction des normes sociales, la société pour son indifférence et les pères de ces enfants conçus hors mariage. Le rapport remis ce mardi avance plusieurs recommandations, des excuses officielles de la part du gouvernement, mais surtout des dommages et intérêts pour les survivantes, et puis l'ouverture des archives, que les enfants puissent accéder à leur certificat de naissance, connaître l'identité de leur mère biologique, et que les mères ayant perdu un bébé puissent savoir où celui-ci est enterré, même si les documents ont souvent disparu.
Mike Pence n'invoquera pas l'article 25 de la Constitution américaine pour évincer pour inaptitude Donald Trump, mais les démocrates qui veulent absolument censurer le locataire de la Maison-Blanche, s'ils n'ont pas le soutien de son vice-président, pourraient bien compter sur d'autres républicains pour voter avec eux cette fameuse procédure de destitution. Frank Madvan nous appelle de Washington.
Il n'y a jamais eu plus grande trahison par un président des États-Unis de ses fonctions et de son serment envers la Constitution. Ces mots ne sont pas ceux d'un élu démocrate, mais de Liz Cheney, une figure majeure des républicains à la Chambre des représentants. Elle votera pour la destitution de Donald Trump et d'autres républicains vont l'imiter. De toute façon, la Chambre est majoritairement démocrate. Le texte sera donc voté ce soir. C'est au Sénat que se tiendra ensuite le procès. Et Mitch McConnell lui-même, le chef des républicains au Sénat, a fait savoir pouvoir qu'il voyait d'un bon œil la procédure lancée par les démocrates. Il faut une majorité des deux tiers pour condamner Trump au Sénat et donc le concours de 17 républicains. Aujourd'hui, c'est possible. Le parti républicain, longtemps effrayé à l'idée de contester le président et de décevoir ses électeurs, semble prêt à tourner la page Trump. S'il est condamné, une majorité simple suffira pour l'empêcher de se présenter à nouveau à la présidentielle.
Et puis à la veille d'une présidentielle à haut risque en Ouganda, couplée à des élections législatives, le patron de l'ONU appelle au respect des droits humains. Les forces de l'ordre ont en effet multiplié les arrestations de militants et de candidats et le pouvoir menace de bloquer les réseaux sociaux et les messageries. Âgé de 76 ans, le président sortant brigue un nouveau mandat. Il dirige l'Ouganda depuis 35 ans maintenant. Du soleil sur le pourtour méditerranéen et sur les Pyrénées. Ailleurs, ce sera de la pluie sur le centre, sur le nord et sur l'ouest. Et puis, il y aura de la neige sur l'est à partir de 600 mètres d'altitude. Les températures iront cet après-midi de 3 à 14 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
À demain, 7h, Olivier Denré. L'information revient à 13h sur France Musique. Bonne journée.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.